Bonjour, je suis heureux de vous retrouver pour ce temps de message, un message que j'ai intitulé « Est-ce la fin du monde ?» Alors, ça peut paraître provoquant comme question ou choquant. Néanmoins, j'imagine qu'il y a des personnes parmi nous qui peuvent se poser la question. Parce que quand nous voyons tout ce que nous traversons et quand nous entendons ce qui est prédit économiquement et aussi ce qui risque de se passer au niveau climatique, il y a de quoi se poser la question. Et comment en même temps ne pas tomber dans l'angoisse, voire la terreur, ou d'un autre côté faire comme si de rien n'était, que tout cela ne me concernait pas, et faire l'autruche. C'est normal de se poser la question de son avenir, mais comment rester dans la paix, surtout quand on passe par des temps difficiles? Et à un moment, les disciples ont eu cette même question vers Jésus-Christ quand il leur a prédit la destruction du deuxième temple de Jérusalem, ce qui se passera une quarantaine d'années plus tard. On trouve ça dans Matthieu 24. Et à Matthieu 24, au verset 3, voilà du coup la question que les disciples posent à Jésus. « Dis-nous, quand est-ce que ces choses arriveront et quel sera le signe de ton avènement et de la fin de l'âge présent ?» Le signe de ton avènement, parce qu'ils s'attendent à ce que Jésus devienne roi tout de suite et qu'il les délivre de l'occupation romaine, et qu'Israël devienne ce qui est dit dans les textes de la Bible hébraïque, qu'il devienne lumière du monde. Et donc, quand il lui demande aussi quel sera le signe de la fin de cet âge, c'est leur une manière de lui demander, mais à quoi verrons-nous que c'est la fin de ce monde? Quand est-ce que ce sera la fin de ce monde? Est-ce que c'est déjà pour maintenant la fin de ce monde tel que nous le connaissons? Et la réponse de Jésus va les aider à se situer. Comment la parole de Jésus, comment la Bible peut nous aider à nous situer? Qu'est-ce qu'elle a à nous dire des temps dans lesquels nous sommes aujourd'hui? Et c'est déjà ce que je voudrais voir avec vous. Premièrement, qu'est-ce que la Bible dit des temps dans lesquels nous sommes? Et deuxièmement, qu'est-ce que la Bible dit des événements que nous sommes en train de vivre? Est-ce qu'elle dit la raison d'être de ces événements? Ces événements ont-ils un but? Et si oui, lequel? Du coup, finalement, comment me situer personnellement par rapport à tout ce que j'entends aujourd'hui, tout ce qui se passe, tous ces événements, et aussi par rapport à ce que dit la Bible? Comment tu peux te situer personnellement? Donc d'abord, qu'est-ce que dit la Bible des temps dans lesquels nous sommes? Les disciples sont donc en train de parler de l'âge présent, du siècle présent. Vous allez voir une diapo s'afficher pour vous aider à comprendre. En fait, dans la compréhension juive que l'on retrouve dans la Bible, l'histoire de l'humanité est subdivisée en trois périodes. Il y a d'abord le Gan Eden, c'est la période de la création de l'humanité, qui se termine par la chute, c'est le moment où l'humanité va se détourner de Dieu et va abandonner ses principes de vie. Et du coup, nous allons entrer dans le Olam Hazeh, ou l'âge présent, c'est l'âge dont les disciples parlent, un âge qui est caractérisé du fait de cette détournée de Dieu, qui est caractérisée par l'emprise du mal, qui est caractérisée par le péché, qui est caractérisé par le fait que nous n'arrivons pas à ne pas faire des erreurs, nous n'arrivons pas à faire le bien comme Dieu l'attendrait, nous n'arrivons pas à ne pas faire le mal. Il y a la mort, puisque nous nous sommes coupés de la vie de Dieu. Il y a la maladie. Il y a tout le mal dans ses diverses formes. Et c'est ce qui caractérise cet âge. Et après cet âge, et c'est l'âge que les disciples attendent, il y a le Olam Haba, ou l'âge à venir. Et cela, c'est l'éternité. Un monde où il n'y a plus de souffrance. Il n'y a plus du tout les souffrances qu'il y a dans le Olam Hazeh. Il n'y a plus d'injustice. C'est un monde où règne la justice, où règne l'amour, où nous sommes dans la paix et la joie de manière absolue, pleinement dans la vie de Dieu, dans la présence de Dieu. Nous sommes donc toujours dans le siècle présent, puisque nous vivons des souffrances. Mais dans quel moment plus exact, plus précis de cette période? La Bible parle aussi, il n'en est pas la question dans Matthieu 24, mais dans d'autres passages que je vous mets aussi avec cette vidéo que vous retrouvez sur la chaîne, dans d'autres passages, Nous savons que nous sommes dans ce qu'on appelle les derniers jours, les derniers temps, ou les Ararit Hayamim en hébreu. Et ces jours ont commencé depuis que Jésus est venu, depuis qu'il est mort et ressuscité. Depuis son œuvre à la croix, c'est là que les derniers jours ont commencé. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que les Juifs eux-mêmes parlent de ces derniers jours, les Ararit Hayamim, comme étant les jours du Messie, les Yemot HaMashiach. C'est-à-dire que eux, ils n'ont pas reçu Jésus comme Messie. Mais depuis cette période de temps, ils sont dans l'attente de leur Messie, de leur Sauveur. Et donc, c'est intéressant de voir comment ça se recoupe. Et dans quel temps ou quel moment, plus exact encore, de ces derniers jours, nous sommes. À un moment, Jésus va parler des temps et des moments. La Bible subdivise aussi le temps, l'histoire humaine, en temps et moment. Et lorsqu'il est avec ses disciples, une dernière fois, avant de quitter son Père, il est donc ressuscité, il va monter vers Dieu le Père, et là, les disciples vont encore lui poser cette question, mais quand est-ce que ton règne va s'installer? C'est ce que nous trouvons au début du livre des Actes. Et en acte 1, au verset 7, il leur dit, mais ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que Dieu a fixés de sa propre autorité. Donc c'est quoi ces temps et ces moments? Ces temps et ces moments, ce sont des séquences de temps plus ou moins longues qui se bouclent par un événement particulier et qui marquent des étapes dans l'avancée du temps. Par exemple, si nous prenons nos manuels d'histoire, il y a des temps et des moments dans notre histoire humaine, par exemple le Moyen-Âge, et puis ça se boucle par un événement particulier qui fait que nous passons dans la Renaissance. C'est du moins comme ça que nous marquons le passage d'un âge à un autre. Il y a l'ère de la révolution industrielle, il y a des temps de guerre, il y a des temps de paix. Dans une vie humaine aussi, il y a des temps et des moments. Il y a le temps de l'enfance, il y a le temps de l'adolescence, il y a le temps des études qui se boucle par un examen et qui fait qu'on entre, par exemple, dans la vie active, il y a le temps du travail qui, dans certains pays, va se boucler par la retraite. Et nous entrons dans un autre temps. Il y a aussi le temps d'une grossesse qui se boucle par une naissance. Voilà, il y a différents temps dans l'existence humaine aussi. Et donc, dans la Bible, il est question de temps et de moments. Il y a, par exemple, le temps d'obscurité. C'est ce temps dans lequel nous sommes. Il y a le temps de la moisson. C'est un temps où la parole de Dieu, l'évangile, va toucher de manière assez forte diverses personnes, plein de personnes en masse. Nous sommes déjà dans le temps de la moisson, il a commencé, mais il sera encore plus fort à un moment donné. Il y a aussi, la Bible dit que Jésus est venu au temps fixé d'avance, au temps fixé par le Père. Donc voilà, il y a des temps et des moments qui sont fixés par Dieu dans l'histoire de l'humanité. Quel est donc le temps ou le moment des derniers jours dans lequel nous sommes plus précisément? À un moment, nous trouvons ça dans Luc 21, c'est le passage parallèle de Matthieu. Luc fait donner une précision à Jésus qu'on ne trouve pas dans les passages parallèles. Les disciples posent la même question, mais dans le discours de Jésus, Luc fait mettre la focale à Jésus sur la destruction du temple. Et la destruction du temple, vous allez voir une diapo s'afficher pour que vous puissiez mieux comprendre. À partir de la destruction du temple, il y a eu ce qu'on appelle le moment des nations. Le moment des nations, c'est un temps finalement où les Juifs, suite à l'occupation romaine et à la destruction du temple, ont été dispersés dans les diverses nations. Et ce sont les nations qui dirigent le monde. Et donc, ce temps va se dérouler jusqu'à ce que Jésus revienne et que Israël, réuni sur sa terre, l'accepte comme Messie, le reçoive comme Messie de manière nationale. Donc, c'est jusque-là que se déroulera ce temps des nations et c'est dans ce temps des nations que nous sommes. Dans ce temps des nations, il y aura un dernier moment dont parle Jésus, en Matthieu 24 et dans d'autres passages aussi, qui est le règne de l'Antichrist. L'Antichrist, c'est un homme ou un système ou les deux qui sera contre à l'échelle mondiale, ce sera quelque chose à l'échelle mondiale et qui sera contre tout ce qui a trait au Dieu de la Bible, que ce soit juif, que ce soit chrétien, de manière authentique. D'après les livres de Daniel et de l'Apocalypse, c'est une période qui durera 7 ans, découpée en 2 temps de 3 ans et demi chacun. Et ce sera un moment où il y aura ce qu'on appelle la grande tribulation ou la grande épreuve. Et ce sera un temps, en fait, cette grande épreuve, un temps de détresse et de souffrance et de difficulté et de persécution aussi, comme il n'y en a jamais eu, comme la terre n'en a jamais connu. Ce temps, ce petit moment du règne de l'Antéchrist s'interrompra au moment où Jésus va revenir. Et au moment où il revient, son Église ressuscite avec lui. Tous ceux qui sont croyants en lui, juifs, non-juifs, ressuscitent avec lui et il installe son règne millénaire. D'après les compréhensions de plusieurs sur les textes qui en parlent, il installe son règne millénaire qu'on appelle le millénium. Donc c'est un temps où il y a toujours le mal d'une certaine manière, mais les choses sont canalisées, sont sous contrôle, et nous sommes dans une période de règne messianique. Et ce sera le dernier temps qui bouclera cette âge présent pour ensuite entrer dans l'âge de l'éternité, l'âge à venir, où il n'y aura plus de souffrance du tout. Alors dans quel moment exact du temps des nations, du moment des nations, sommes-nous? Est-ce que nous serions déjà entrés dans le règne de l'Antichrist, dans la grande tribulation? Parce que ce que nous vivons aujourd'hui, nous entendons dire que c'est inédit, nous n'avons jamais connu ça auparavant. Je vais répondre à partir de ce que Jésus dit, à partir de ce que Jésus répond aux disciples à cette question dont nous avons parlé au départ dans Matthieu 24. Donc on trouve cela au verset 4. Donc, à partir de cette question, Jésus va dérouler tous les événements qui doivent se passer d'ici la fin de cet âge présent. Jésus répondit, « Faites attention que personne ne vous trompe, car beaucoup de personnes viendront au monde en disant « Je suis le Messie ». Et ils égareront quantité de gens. Vous entendrez le bruit de guerres proches et des nouvelles de guerres lointaines. N'ayez aucune crainte, car ces choses doivent arriver, mais ce ne sera pas encore la fin. » Les peuples se dresseront les uns contre les autres, les nations combattront les unes contre les autres. Il y aura des famines et des tremblements de terre dans plusieurs régions du monde. Et le passage parallèle de Luc 21 précise des épidémies. Tout cela ne sera que le début des douleurs de l'enfantement. Quand ces choses arriveront, vous serez arrêtés et livrés pour être maltraités, pour être mis à mort. Toutes les nations vous haïront à cause de mon nom. En ce temps-là, beaucoup se trahiront et auront de la haine les uns pour les autres. De nombreux faux prophètes surgiront, ils tromperont beaucoup de gens. Et parce que leur éloignement de la Torah, c'est-à-dire de l'enseignement de Dieu, de la loi de Dieu, se sera accru, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui tiendra bon jusqu'à la fin sera délivré. Et cette bonne nouvelle du royaume sera annoncée dans le monde entier pour servir de témoignage à l'égard de tous les non-juifs. C'est alors que viendra la fin. Donc est-ce que nous saurions rentrer déjà dans le règne de l'Antéchrist, dans cette grande tribulation? Ce que l'on peut dire, c'est que nous ne connaissons pas encore un homme ou un système anti-Dieu de la Bible, anti-juif, anti-chrétien à une échelle mondiale. Nous ne connaissons pas encore cela. Et si Israël a rejoint sa terre depuis 1948, il y a encore beaucoup de juifs qui sont dispersés parmi les nations. Et si Israël, l'État d'Israël d'aujourd'hui, a promulgué une loi de l'État-nation, le faisant État-nation en juillet 2018, eh bien, il y a aussi de nombreux juifs qui ne reconnaissent pas l'État d'Israël tel qu'il est aujourd'hui comme la nation d'Israël. Donc, nous sommes en fait dans ce dont il est question dans ce texte quand Jésus parle des douleurs de l'enfantement. Nous sommes dans le temps des douleurs de l'enfantement, encore, qui ne sont pas des jugements divins, mais qui sont des épreuves. Donc le temps des nations, en fait, c'est un temps où la grâce de Dieu subsiste encore, mais qui est marquée d'épreuves. Ce ne sont pas des jugements divins, dans le sens où ce n'est pas la colère de Dieu qui se déverse. Et d'ailleurs, nous ne savons pas exactement si nous allons passer directement de ce temps dans lequel nous sommes au règne de l'Antichrist, dans le sens où il peut y avoir aussi des périodes intermédiaires entre ces épreuves et ces jugements divins qui auront lieu pendant le règne de l'Antichrist. Si nous allons dans l'Apocalypse, Par exemple, il est question dans Apocalypse 8.1 d'un temps de silence, une demi-heure de silence. Ça peut être un temps de sursis aussi, entre un temps d'épreuve et les jugements divins. Un temps de silence, souvent dans la Bible, les temps de silence, ils précèdent des temps de jugement. Et avant Apocalypse 8, on a Apocalypse 6, ce sont ce qu'on appelle les sceaux qui correspondent presque mot pour mot à ces douleurs de l'enfantement telles que Jésus en parle, notamment dans Matthieu 24. Et après cette demi-heure de silence, il y a les trompettes dans Apocalypse 8 et 9, où là, ce sont clairement des jugements divins. C'est la colère de Dieu qui commence à se déverser sur ce monde. Et quand on lit les trompettes, ça n'a rien à voir avec ce que nous vivons aujourd'hui. Et donc, ça pourra se passer au début du règne de l'Antichrist, ou peut-être juste avant. Voilà, bref, il peut y avoir des périodes comme ça intermédiaires. Donc, nous ne sommes pas rentrés dans ce temps du règne de l'Antéchrist, nous ne sommes pas dans la grande tribulation, nous sommes encore dans le temps des douleurs de l'enfantement, dans le temps de ces épreuves. Nous sommes donc encore dans ces douleurs de l'enfantement, dans ces épreuves, mais la fin de cette période se précise. Car ce n'est pas pour rien que Jésus utilise le terme de douleur de l'enfantement, c'est-à-dire de contraction. Nous savons que dans une grossesse, à un moment donné, quand la grossesse arrive à terme, les contractions se font de plus en plus fréquentes et de plus en plus intense. N'est-ce pas ce qui est en train de se passer quand nous voyons ce qui se passe avec cette pandémie, avec ces dérèglements climatiques où les choses se font de manière de plus en plus fréquente et de plus en plus intense? Et donc, deuxièmement, toutes ces épreuves que nous vivons, ce que nous vivons en particulier en ce moment, quel est le sens de tout cela? Pourquoi, en deux mots, est-ce que c'est là? Est-ce que ça a une raison d'être? Quel est le but? Est-ce qu'il y a un but? Et si oui, quel est le but? Dans la lecture que j'ai faite de Matthieu 24, dans la réponse de Jésus, Jésus à un moment a deux expressions qui répondent à cette question. Quand il parle des douleurs de l'enfantement, des épreuves que nous vivons en ce moment, il dit « mais ce ne sera pas encore la fin ». Mais quand il parle, quand il s'apprête à parler du règne de l'Antichrist, il dit « alors là viendra la fin ». Ce terme « fin » en grec, c'est telos. Et en fait, ce n'est pas fin comme dans les derniers jours ou comme dans les temps de la fin. Ça veut dire but, ça veut dire finalité. Donc Jésus est en train de dire que ce que nous vivons, les épreuves que nous vivons, les douleurs de l'enfantement, ce ne sera pas encore le but. Mais quand viendra le règne de l'Antéchrist, cette dernière période du moment des nations, alors là viendra le but. Et qu'est-ce que le but ? Dans la Bible, le but, en fait, c'est Jésus lui-même. Un moment dans Apocalypse, c'est dans Apocalypse 21.6 et dans Apocalypse 22.13, Jésus dit « Je suis l'alpha et l'oméga, je suis le premier et le dernier, je suis le commencement et la fin, c'est-à-dire je suis le commencement et le but, c'est telos. Il est le but de toute chose. C'est Jésus qui est le but. Et ces épreuves sont là pour que nous nous tournions vers lui qui est le but. Le but de ces épreuves, c'est que nous nous détournions de tout ce qui nous sépare de Dieu. C'est que nous nous détournions de tout notre orgueil, de toute notre méchanceté. Et nous savons que nous avons une part aussi dans ces épreuves que nous vivons. Nous savons qu'il y a un impact de l'humanité sur les écosystèmes, sur le dérèglement climatique, sur les écosystèmes, et nous savons aujourd'hui que ça a un lien aussi avec cette pandémie. Donc, voilà quel est le but. Et la Bible dit que Jésus, non seulement est le but, mais qu'il est aussi la porte. Dans Jean 10, Jésus dit qu'il est la porte. Et dans la sagesse juive, on parle du Olam Hazeh, le siècle présent, comme étant une antichambre. L'antichambre d'un palais, qu'est le Olam Abba, l'âge à venir. Et Jésus est la porte. Jésus est la porte entre cette antichambre et ce palais. L'antichambre, c'était l'endroit, le vestibule, le hall d'entrée, où on faisait attendre les personnes avant qu'elles entrent dans le palais du roi où était son trône. Et Jésus est la porte. Où est-ce que toi, tu te situes par rapport à cela? Physiquement, nous sommes tous dans l'âge présent. Nous sommes tous dans le Olam Hazeh. mais spirituellement, nous pouvons être déjà dans l'éternité. Nous pouvons déjà être dans le Olam Haba. Nous pouvons déjà être dans le palais où il y a le trône du roi, en passant par cette porte qui est Jésus. Alors, où est-ce que tu te situes? Est-ce que toi, tu restes devant cette porte parce que tu n'oses pas entrer, parce que tu ne te sens pas digne, ou parce que tu dis que tu n'as pas besoin, ou que tu n'en vois pas le sens? Ou est-ce que tu as déjà franchi cette porte? Et si tu as déjà franchi cette porte et que tu te tiens devant le palais du roi, spirituellement, tu es dans cet âge à venir, dans quelle mesure tu vis une vie où tu cherches à ressembler à celui qui est le but, à celui qui est la porte, à celui qui est Jésus, qui est mort et ressuscité pour toi? C'est vrai que ce que nous vivons aujourd'hui, c'est éprouvant. Et quand nous vivons des épreuves, et il y a aussi toutes les épreuves des vies de chacun, nous passons tous par des épreuves. Et quand nous sommes dans les épreuves, eh bien, on ne voit pas forcément le bout du tunnel. C'est pénible. Et on peut être même dans la colère. Et on est dans la peine. Et c'est difficile d'avoir de l'espérance. Je me souviens quand, avec mon épouse, nous attendions notre premier enfant, et quand elle était sur le point d'arriver, quand Estelle a commencé à avoir des contractions, et le moment des contractions jusqu'à ce que notre fille naisse a duré 19 heures pour diverses raisons. Et je voyais Estelle souffrir, et moi je ne pouvais pas savoir ce qu'elle vivait physiquement, mais je la voyais souffrir. Et c'était vraiment long, et c'était vraiment dur, c'était vraiment difficile, et il y avait de la souffrance. Mais quand notre fille est arrivée, quand elle était là, d'un seul coup, d'un seul, tout était effacé. Toutes ses souffrances étaient effacées. C'était le miracle de la vie, et nous tenions notre fille dans nos bras. Et là, ça enlevait tout, toute la peine qui avait été vécue avant. Nous ne nous en souvenions plus. Enfin, le miracle de la vie, cette joie-là venait prendre toute la place. Et sans même parler d'avoir un enfant, de connaître ce que c'est que d'avoir un enfant, à partir du moment où tu as eu un projet et pour lequel tu as peiné et tu t'es investi, quand cela est né, quand ça a abouti et que c'est né, souviens-toi de la joie que tu as eue. Eh bien, cette joie, c'est rien du tout à côté de la joie que nous aurons quand nous serons dans cet âge à venir, quand nous passerons la porte, quand nous sortirons de cette antichambre pour aller dans le palais. Et déjà cette joie, nous pouvons la connaître, nous pouvons en connaître les prémices en acceptant Jésus dans notre cœur, dans notre vie. Imagine ce que pourrait être cette rencontre avec Dieu. Et si tu as déjà fait cette rencontre, que tu es spirituellement dans le Olam Haba, que tu es spirituellement dans ce palais avec le roi des rois, alors tu peux être dans la paix. Malgré tout ce qui se passe, tu peux être dans la paix. Tu peux être confiné en Jésus. Et dans cette période de déconfinement, tu peux t'attendre à ce déconfinement beaucoup plus grand, beaucoup plus fort que ce sera quand nous entrerons réellement avec tout notre être dans cet âge à venir avec Jésus. Alors pour conclure, comment est-ce que tu te situes personnellement par rapport à tout ce qui se passe, par rapport à ces événements? Comment tu te situes par rapport aussi à ce que dit la Bible, à ce message qui a été dit aujourd'hui? La Bible qui nous aide donc à nous situer comme nous l'avons vu. Bien sûr, Jésus dit que nous n'avons pas à connaître les temps et les moments, mais aussi à un autre moment, quand il y a des pharisiens, c'est une élite religieuse qui vient le trouver pour lui dire « Mais accomplis un miracle pour que nous puissions croire que tu es le Messie, c'est sous-entendu, accomplis un miracle. » Et Jésus ne va pas accomplir de miracle, mais il va leur répondre « Vous savez discerner les signes du temps qu'il fait, vous regardez dans le ciel et puis vous savez le temps qu'il va faire, mais vous ne savez pas discerner les signes des temps. » Et c'est lui le signe du temps, le Messie qui arrive. Et là, à ce moment-là, il n'était pas accueilli en tant que tel par ces hommes. Et donc, les signes du temps, nous avons aussi à les observer, nous avons à nous situer, nous avons à savoir dans quel temps nous sommes par rapport au retour de Jésus, pour nous situer par rapport à lui, comme je l'ai dit jusqu'à présent. Et comme pour l'histoire visible et invisible de l'humanité, l'histoire physique et spirituelle de l'humanité, il y a des temps et des moments que Dieu a fixés. C'est pareil pour nos vies. Il y a des temps et des moments que Dieu a fixés. Dieu est le maître de l'histoire. Il est le maître de l'histoire avec un grand H. Il est le maître aussi de notre histoire à chacun. Que tu le veuilles ou non. Et il y a des temps et des moments qui ont été fixés par lui. Il y a des temps de rendez-vous. Et dans quel temps tu es aujourd'hui ? Dans quel temps tu es aujourd'hui ? C'est peut-être le temps de prendre une décision importante. Le temps de prendre une décision importante pour ta vie. Peut-être que c'est le temps d'accueillir Dieu, le temps d'accueillir son Messie, le temps d'accueillir Jésus dans ta vie, le temps de passer la porte. Peut-être que c'est le temps, si tu as déjà passé la porte qu'est Jésus, si tu l'as déjà accepté dans ton cœur, mais que tu t'es éloigné, c'est le temps d'un retour, le temps de revenir auprès du trône du roi. Peut-être que c'est le temps d'une restauration, le temps d'une guérison. Peut-être que c'est le temps d'une repentance, le temps d'entrer dans une prière plus intense, dans un jeûne, par rapport à ce qui se passe aujourd'hui pour participer au plan de Dieu. Peut-être que c'est le temps de prier par rapport à ses plans, de prier pour Israël de manière plus particulière. Le temps de prier pour le salut des uns et des autres, pour le plus de personnes se tournent vers lui. Peut-être que c'est le temps de t'engager de manière particulière pour prendre soin de la création, pour prendre soin de la terre, pour prendre soin des hommes. Le temps d'une réconciliation dans tes relations. Bref, on pourrait décliner les choses de diverses manières, mais quel est le temps pour toi aujourd'hui ? Qu'est-ce que Dieu te dit ? Quel est le temps ? Quel est le moment ? Ces temps et ces moments de nos vies, ils entrent en résonance avec ces temps et ces moments de l'histoire de toute l'humanité, tels que nous en avons entendu parler ce matin. Alors, quel est le temps pour toi ? Qu'est-ce que Dieu te dit ? Je vais terminer ce temps de message tout simplement par un temps de prière, où je vais laisser du silence. On va d'abord rentrer dans un temps de silence pour que tu puisses écouter Dieu et que tu puisses t'exprimer, pour que tu puisses déjà écouter et que tu puisses entendre toi le temps dans lequel tu es et que tu puisses t'adresser à lui. Et si c'est le temps justement d'entrer dans sa présence, de l'accueillir dans ta vie, bah, que tu puisses le faire. Si c'est tu te poses des questions, que tu veux savoir si elle existe, que tu puisses t'exprimer vers lui de cette manière. Si tu as besoin d'aide, que tu puisses lui demander. Si, voilà, il y a, quelle que soit la chose particulière par rapport au temps où tu es, que tu puisses lui exprimer. Prions. Oui Seigneur, je te remercie pour ce qui a pu se dire ce matin, ce qui s'est répandu des cœurs devant toi. Tu connais chacun derrière son écran, chacun où il en est Seigneur. Peut-être qu'il y a des prières qui n'ont pas pu se terminer, mais les choses pourront être reprises avec toi et tu es là. Je te confie, Seigneur, nous tous. Je te confie là où nous en sommes, Seigneur. Merci vraiment que nous puissions considérer le but que tu es, Seigneur, au travers de tout ce que nous vivons, au travers de ce que ta parole nous dit. Vraiment, je te rends gloire et je te remets chacun, Seigneur, dans son cheminement avec toi. Seigneur, vraiment que tu puisses être présent pleinement là où chacun a besoin de toi. Dans le nom de Jésus, je te prie. Amen. À bientôt, les amis.